Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Vous connaissez Aurore Dupin ? Si, si, vous connaissez Aurore Dupin, mais sûrement sous son pseudonyme, Georges Sand. Cette brillante écrivaine du 19e siècle, amante de Chopin, avait beaucoup d'amis, et parmi elles, une comtesse qui, comme elle, a eu une relation avec un compositeur et a pris la plume sous son nom d'emprunt. Je vous raconte Marie Dagout et son alter ego, Daniel Stern. Germaine Régnier aimait passionnément Nelida. Il l'aimait de toute son imagination et de tout son orgueil, les deux puissances qui régissaient sa vie. En lui peignant l'empire qu'elle exerçait sur lui, il ne l'avait pas trompé. Cette anecdote de son enfance qu'il lui avait contée était vraie de tout point. L'image de Nelida et le premier éveil de son génie se confondaient dans son esprit. Le premier battement de son cœur avait été pour l'art et pour elle. Conquérir la gloire et conquérir Nelida, c'était pour lui un seul et même désir. Je viens de vous lire un extrait du roman Nelida. Nelida, c'est l'acronyme de Daniel. Oh, ce n'est pas un hasard, puisque Daniel Stern en est l'auteur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Daniel Stern n'existe pas. Il est le pseudonyme choisi par une comtesse du 19e siècle, Marie Dagout. Nelida, Daniel et Marie sont donc une seule et même personne. Car dans cet ouvrage, l'auteur s'est inspiré de son histoire d'amour avec un célèbre compositeur. Le German en question, c'est l'illustre Franz Liszt. La vie tumultueuse de Marie-Catherine Sophie de Flavigny, de son vrai nom, commence à Francfort-sur-le-Main, un jour de décembre 1805. Révolution oblige, sa famille issue de la noblesse à émigrer dans le Saint-Empire. Avec l'arrivée de Napoléon au pouvoir, les Flavigny peuvent rentrer au pays. Marie reçoit une brillante éducation à Paris et en Touraine. Sa mère lui apprend l'allemand, son père l'initie à la littérature française, Chateaubriand, Rousseau ou Lamartine. Si la demoiselle a de l'esprit, elle est aussi dotée d'un physique aristocratique. Grande, blonde, aux cheveux bouclés, une certaine froideur se dégage de son visage pâle. Mais à l'intérieur, Marie de Flavigny brûle. En mai 1627, elle épouse un comte de 15 ans de plus qu'elle, le colonel de cavalerie Charles-Louis Constant d'Agoult. Ils ont deux enfants, Louise et Claire, mais sa vie de mère ne la satisfait pas vraiment. Et sa vie de salonnière non plus. Vigny, Chopin et Rossini défilent dans son hôtel de la rue de Beaune à Paris. Mais leur conversation, qu'elle juge trop frivole, l'ennuie. Alors elle cherche dans les livres, je la cite, « une relation intellectuelle avec ceux qui sentent, pensent, souffrent comme elle ». Les romantiques donc. La vraie vie prend le pas sur la littérature, un soir de décembre 1832. Marie Dagout découvre la passion lors d'une réception donnée par une marquise au cœur du Faubourg Saint-Germain. Lorsqu'un pianiste hongrois se met à jouer, son cœur chavire. La conversation confirme sa première impression. Virtuose, l'homme a de l'esprit, il est poli et élégant. Il s'appelle Franz Liszt, il a 22 ans, elle en a 28. Le musicien lui apparaît comme une apparition, justement. Je dis apparition, faute d'un autre mot, pour rendre la sensation extraordinaire que me causa tout d'abord la personne la plus extraordinaire que j'eusse jamais vue, confiera-t-elle. Dès le premier instant, j'eus la révélation d'une nature souverainement grande. Je sentis qu'invinciblement attirée, mon âme allait se perdre, s'abîmer dans la sienne. Et elle ne s'est pas trompée. Marie Dagout se sent coupable de quitter un mari qui est bon avec elle, mais elle est incapable de résister à la tentation de vivre cette passion. Et en octobre 1834, un drame la pousse violemment dans les bras de son amant. Sa fille Louise meurt dans ses bras à l'âge de 6 ans. La comtesse ne le supporte pas. Elle abandonne alors son mari et sa fille Claire et quitte la France avec son Franz. Sa mère tentera plusieurs fois de la ramener à la raison, mais en vain. En juillet 1834, Marie Dagout et Franz Liszt s'installent à Genève. Leur couple incarne à merveille l'idéal de la bohème romantique. Elle raconte « Personne ne savait notre nom. Presque partout, à nous voir si semblables, on nous prenait pour frères et sœurs. Nous en étions tout ravis. Une telle erreur ne témoignait-elle pas, mieux que tout le reste, des affinités secrètes qui nous avaient si fortement attirés l'un à l'autre ? Cette errance inspire au compositeur son cycle de recueil pour piano, Année de pèlerinage. Marie crée, elle aussi, un enfant d'abord, en donnant naissance à Blandine, puis elle se lance dans l'aventure de l'écriture. C'est en Suisse que la comtesse revendique son don littéraire. Elle admire les premiers romans de Georges Sand que son amant lui a présentés. Alors désormais, elle veut faire comme elle. Le problème, c'est que chacun vit sa passion à fond. Quand Franz apprend qu'un nouveau pianiste fait fureur à Paris, il s'y rend sans attendre, désireux de prouver sa supériorité. De son côté, Marie s'installe chez sa nouvelle amie, George Sand, dans sa maison restée célèbre de Nohant, dans l'Indre. Au début, tout se passe bien, mais petit à petit, elle craint que son amie ne séduise son amant. La jalousie s'en mêle. Pour relancer leur couple, Franz Liszt et Marie Dagout s'évadent de nouveau, en Italie cette fois, qui offre parmi les plus beaux paysages romantiques. Ils composent, elle écrit. Ils ont une autre fille, Cosima, qui ne sait pas encore quelle sera la future épouse de Wagner. Puis un fils, Daniel. Le souvenir qu'ils gardent l'un et l'autre de cette escapade amoureuse est assez différent. Pour Liszt, lorsque vous écrirez l'histoire de deux amants heureux, placez-les sur les bords du lac de Côme, raconte-t-il. Tandis que Marie écrit « Je m'étonne quelquefois de le voir si constamment gai, si heureux dans la solitude absolue où nous vivons. Si elle devient de plus en plus mélancolique, lui est enivré par le succès. Sa musique conquiert l'Autriche. À Vienne, il fait un triomphe. Résultat, le pianiste est tenté par plus de liberté. Il veut vivre de nouvelles amours. Pour garder sa bien-aimée, il lui propose de former une union libre. Mais pour Marie Dagout, la liberté a ses limites. Avec le compositeur, la rupture semble alors inévitable. Aigreur, frustration, entre la comtesse et Liszt, rien ne va plus. Et ça se sait. Leur contemporain, Balzac, s'amuse à dépeindre la société dont il est témoin dans sa comédie humaine. Il surnomme Marie Dagout et Franz Liszt les galériens de l'amour. Dans Béatrix, en 1839, Balzac transpose librement leur histoire. Dès la parution du roman, Marie ne cache pas sa haine pour l'écrivain. Elle seule a le droit d'écrire sur sa passion. Elle le fait dans Nelida en 1846. Ce roman, elle le signe du pseudonyme Daniel Stern. Elle raconte ainsi ce choix. « Je pris machinalement le crayon et j'écrivis Daniel. C'était le nom que j'avais donné à l'un de mes enfants, le nom du prophète sauvé de la fosse aux lions qui lisait dans les songes. Cette histoire me plaisait entre toutes les histoires de la Bible. » L'ouvrage scelle définitivement la rupture avec Franz Liszt. Entre-temps, lui est tombé dans les bras d'une courtisane sulfureuse du nom de Lola Montes, dont on a déjà parlé ici même, puisqu'elle a ruiné Louis Ier de Bavière. Rendue célèbre par le film de Max Ophuls, la belle irlandaise, ne vous fiez pas à son nom de scène, sera aussi la maîtresse de Louis Ier de Bavière. De son côté, Marie Dagout continue d'écrire. Bien qu'elle n'y participe pas, elle publie une histoire de la Révolution de 1848, écrite sans recul par une auteure passionnée, une fervente républicaine. L'ouvrage est encore utilisé de nos jours par les historiens. Sous le Second Empire, elle tient encore salon. On croise chez elle les noms les plus prestigieux des arts, de la littérature, de la musique et de la politique, comme Jules Grévy, Émile Littré, Ledru Rollin, Lamartine ou bien Sainte-Beuve. Elle pose pour des peintres et des sculpteurs. Chopin, par exemple, lui a dédié son opus 25. Marie Dagout meurt en 1876, à l'âge de 70 ans, emportant avec elle son alter ego Daniel Stern. Si elle reste une incarnation du romantisme, elle n'était pas appréciée par son chef de file. En apprenant le décès de la comtesse, Victor Hugo écrit à son sujet dans ses carnets « Peu de talent, petite âme ». Chez les romantiques, les sentiments, quels qu'ils soient, sont exaltés, il est vrai.
Europe 1, historiquement vôtre.